chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à cette deuxième émission radio pour le bloc de l'atelier multimédia de la Fondation Les Perce Neige.
Mes très chers collègues Daniel Colaiani, Luc Bamba et moi André Almeida avons le plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce deuxième et dernier journal de l'année 2020.
Quand on dit Noël, on dit cadeau, bonne nourriture et tutti quanti. Et la nouvelle année, champagne à volonté. Cette année 2020 a été vraiment particulière. Pour vous divertir, n'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le blog de la Fondation. Quelques surprises vous attendent jusqu'à la fin du mois de décembre.
Voici les titres. Jubilaire.
Nous partons à la boutique du CCD pour les cartes de Noël.
Nous partons aux ateliers des falaises, comment ils fabriquent les savons.
École du bonheur, livre.
Nous faisons un petit retour dans le passé car nous sommes partis à la rencontre du célèbre photographe Guillaume Perret.
Petite rubrique festive, soirée du décala.
Jubilaire. Une étape importante de l'année est la célébration des jubilaires de la Fondation. Les années s'accumulent et certaines personnes atteignent 50 ans d'activité au Perce-Neige. Félicitations à elles. Au cours des semaines à venir, nous vous proposerons une série de portraits des jubilaires les plus anciens.
Petit voyage à la boutique CCD. Nous nous rendons à la boutique CCD car étonnamment le bénéfice de la boutique a explosé pendant la période du Covid-19. Stéphanie Pacelli nous explique en détail cette hausse du chiffre d'affaires.
Bonjour madame, je voulais un renseignement pour un petit enfant de une année.
Oui.
Vous pouvez me montrer ce que vous avez comme jouet ?
Comment ça se fait que vous avez fait autant de bénéfices ?
Alors, durant la crise du Covid, les magasins sont restés fermés pendant quelques temps. Et je pense que ça a dû avoir une influence. Les gens, on a rouvert la boutique le 3 juin de cette année. Et peut-être qu'ils avaient soif d'acheter des produits locaux, et en tout cas qui viennent de Suisse.
D'où viennent tous ces produits, ces jouets en bois ?
Alors, on a une production propre qui est faite à la menuiserie à la Chaux-de-Fonds. Mais bien sûr, cette production propre ne pourrait pas remplir toute notre boutique. Alors du coup, on a plein d'autres fournisseurs qui sont suisses, qui ont les mêmes fonctions que notre fondation. Donc soit c'est une situation dans le monde du handicap qui produisent différents objets. Là, comme par exemple ce genre de choses qui peuvent être roulées. Autre chose par rapport à cette vache, on a tout plein de jeux en bois. Ces jeux en bois sont de qualité entièrement suisse. Ils sont avec le label FSC. Et les solvants sont aussi naturels pour que les enfants puissent mettre ces objets à la bouche sans danger.
C'est pour ça que les gens ils ont décidé d'acheter local.
Je pense. Et puis en plus, à mon avis, il y a quand même une envie de redevenir un petit peu à des choses naturelles. Le plastique, on en a beaucoup, beaucoup trop. Donc nous, on évite d'avoir... on n'a aucun objet en plastique dans la boutique.
Quels produits ont été le plus vendus ?
On a un tel choix de produits dans notre magasin que je ne peux pas vous dire qu'un seul produit unique a été vendu. Mais on a différents objets, comme notre allume-feu. On arrive dans cette période d'hiver où tout le monde vient nous l'acheter parce que c'est un produit phare de la Fondation. Et plein d'autres objets qui sont des savons et qui sont de la confection propre à la Fondation, y compris les bougies qui sont, elles, décorées dans l'atelier de Marisa et qui sont coulées à Cernier à l'atelier de bougies à Cernier.
Êtes-vous surprise de cette hausse des ventes ?
On ne peut pas vraiment être surprise, mais peut-être que les gens ils avaient soif de redépenser un petit peu leur argent. Peut-être aussi qu'ils ont préféré choisir des objets avant que les fêtes de fin d'année arrivent. On peut tout imaginer, mais je pense que les gens, ils avaient certainement l'envie de retrouver un petit peu le sourire des vendeuses et tout ça, quoi. On fait partie.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonjour, je suis Daniel Colliani et je me retrouve actuellement à l'atelier de la boutique CCD, accompagnée de Marisa Louvet.
La Fondation Les Personnages a créé l'atelier boutique au CCD en 2001. On va donc fêter les 20 ans de la boutique l'année prochaine. Le but, c'était de créer une structure inclusive en milieu urbain ouvert pour des personnes qui ont une bonne autonomie. Pour leur offrir vraiment une identité professionnelle, une inclusion. Ma collègue Stéphanie s'occupe de la vente, est monitrice socio-professionnelle à la boutique et accompagne 5 personnes qui s'occupent de l'accueil à la clientèle, la gestion du stock, de toutes les activités commerciales liées à la vente. Et moi, je m'occupe de l'atelier au CCDI qui est directement relié et intégré à la boutique. On fabrique principalement des objets de décoration, des objets de papeterie, beaucoup de cartes.
Est-ce que vous réalisez ces cartes que pour Noël ou vous les faites pendant toute l'année?
Alors c'est tout au long de l'année, au fil des saisons. C'est vraiment des cartes saisonnières avec des thèmes par saison. Mais il y en a toute l'année.
Où est-ce qu'on peut les acheter ces cartes?
Alors, en premier lieu, principalement ici, dans notre boutique au CCDI, et ensuite dans différents autres points de vente, autres boutiques à l'extérieur, et aussi pour le marché de Noël de la Fondation, et également à la réception des Hauts-Genevais.
Quel est le prix de ces cartes?
Alors, ça va de 4,90 francs à 6,90 francs selon le modèle.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est bientôt Noël. Si vous avez des idées de cadeaux, profitez de venir acheter de magnifiques produits à la boutique CCD à Neuchâtel. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix.
Atelier savon, nous partons aux ateliers des falaises pour découvrir comment ils produisent des savons. Les ouvriers et les ouvrières et Philippe Roffer, maître socio-professionnel, répond à nos questions.
Bonjour, merci de m'avoir accueilli dans votre atelier de savon.
Alors, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Hein. C'est vraiment un honneur de vous présenter notre travail.
Comment avez-vous appris à faire les savons?
Alors, moi, j'ai appris au travers d'un cours, d'une formation que je suis allé suivre chez Gilles Deverck, hein, qui est également notre fournisseur de matières premières, emballages, parfums et bondillons. Et j'ai fait un jour de formation là-bas qui a été validé et puis j'ai rapporté ces connaissances ici. Voilà.
Est-ce que pendant le Covid-19, sentez-vous une pression plus forte qu'avant?
Alors, forcément, on est impacté comme tout le monde hein, par rapport à toutes ces mesures qui sont plus que raisonnables. Mais c'est vrai que ça complique un petit peu les tâches de travailler tout le temps avec ce masque qui tient chaud. Maintenant, il fait un peu moins chaud à cette saison, mais c'est vrai qu'en été, on a passablement souffert.
Quelle matière utilisez-vous pour faire vos savons?
Alors nous, on part sur une matière première qui s'appelle le bondillon, qui est donc à base d'huile d'olive et de coco. Après, il y a de la glycérine, il y a différents ingrédients dedans, mais c'est un produit garanti bio, dans le respect général de la culture et de l'environnement. Donc,
Merci un peu de m'éclairer.
Tu veux le tien?
Non.
Ça va aller?
Oui.
Quel arôme utilisez-vous pour vos savons?
Alors, on a différentes fragrances, hein, justement. On utilise de l'ambre, du cachemire, du patchouli, du thé vert, du bambou, une fragrance forêt. Il y a des savons naturels aussi, tout simplement. Il y a encore la fleur de coton et je crois que j'en ai pas oublié. Il y en a 9 en tout.
Et là,
combien de sortes de savons faites-vous?
Ah ben, on en fait. Donc il y a 9 fragrances différentes, mais après il y a différents types de savons. Il y a des savons simplement carrés, rectangulaires, de 100 grammes chacun. Il y a des savons en forme de galets qui sont moulés dans des moules sous presse. Donc il y a trois tailles différentes pour ce qui concerne le galet. Donc ça fait quatre sortes de savons différentes.
Pourquoi utilisez-vous cette matière précise et pas une autre ?
Alors la matière première, idéalement, c'est parce que ça nous évitait de préparer le savon avec ce qu'on appelle une saponification à froid, qui implique qu'il faut qu'on utilise de la soude caustique, et qui est un produit quand même très corrosif, donc il aurait fallu porter des équipements très protecteurs, et ça ne s'adressait pas vraiment aux personnes qu'on accueille ici.
Comment tu t'appelles ?
Onur Ademov.
T'aimes quoi dans ce travail ?
Faire des savons et des pédales.
Ça fait depuis longtemps que tu es là ?
Non, pas du tout. Ça fait peut-être 3 mois.
Bon. Ok, oui, c'est bon.
Ça va ?
Oui.
Combien de temps cela vous prend-il pour faire des savons ?
Des quantités, c'est pesé en différents kilos. Hein. On peut en faire jusqu'à 7 dans la machine qu'on a ici. Et ça nous prend généralement une matinée complète.
Combien de personnes vous est-il nécessaire pour faire les savons ?
Alors la production en soi, quand on est dans le local labo, hein, qui se trouve juste derrière moi, vous voyez, il n'est pas immense, donc on se tient à 5 personnes. Et après, il y a toutes les étapes d'emballage, étiquetage, préparation de commandes qui peuvent également occuper du monde dans l'atelier lui-même.
Pour les personnes allergiques, est-ce que ces savons sont-ils adaptés pour elles ?
Alors, normalement, oui, c'est garanti par le fournisseur, justement, qui utilise des matières, tout ce qui est colorant, parfum, dans des quantités qui sont non allergènes. Donc on ne devrait pas avoir de problème. Après, il faut bien respecter les dosages et puis on ne devrait pas rencontrer de problème. C'est jamais arrivé.
Combien de temps laissez-vous sécher les savons après leur production ?
Alors les savons sont mis en cure, comme on dit, durant une semaine.
Après le développement des savons, où sont-ils emballés ?
Alors ici même, dans l'atelier. C'est des postes de travaux supplémentaires qui s'ajoutent dans cette chaîne de fabrication.
Ouais. Punaise, c'est...
Il n'y aura jamais de noix.
Mais
c'est une blague, ça n'existe pas.
Où sont vendus les savons ?
Alors on produit pour la boutique au CCD, qui fait partie de la fondation. On en trouve à la réception des Hauts-Genevais. On en vend également dans un magasin du monde de la Chaux-de-Fonds. Autrement, il y a les marchés de Noël. Alors cette année, il y aura un peu moins, mais c'est aussi un moment de grande vente, quoi. Ça marche bien.
Quels sont les produits que vous vendez le plus ?
Alors, c'est principalement le savon de 100 grammes, actuellement, qui part le mieux.
Quelle quantité de savon livrez-vous dans l'année ?
Waouh, alors là, j'ai pas les chiffres exacts. Hein. Le responsable technico-commercial de la Fondation en parlerait mieux que moi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on produit depuis 2017 et d'année en année, la vente augmente, quoi. Donc c'est bon signe.
Merci beaucoup, bonne journée.
Mais avec plaisir, à vous aussi, merci.
Voilà, nous étions à l'atelier de manufacture de savon Falaise à Neuchâtel, à la rencontre de ce maître socio-professionnel des ouvrières et des ouvriers. Si vous avez des idées cadeaux, n'hésitez pas à aller acheter ces magnifiques produits à la boutique CCD.
École du bonheur, la classe et le livre.
Nos deux auteurs et enseignants spécialisés, Valérie Geller-Potier et Louis Coste, vous parlent de leur ouvrage, inspiré de leur activité en classe Klein à Colombier. Leur livre raconte entre autres le quotidien de la classe et le monde du handicap au sein d'une école primaire. Si vous êtes intéressé par ce livre, Vivant et coloré, est disponible sur commande par email à pn.atelier-multimedia@ne.ch pour la modeste somme de 15 francs.
J'ai dit à Louis, j'aimerais beaucoup écrire un livre. Et là, il me dit, à fond, je fais des dessins. Et ça a commencé comme ça, donc voilà.
Ça a tout de suite matché, en fait.
Ça a tout de suite matché, et puis on s'est dit, bah, ok, on essaye. Et puis, ça nous a pris, voilà, l'année scolaire, on termine juste, hein, fin juin.
D'accord. Racontez-moi un peu l'aventure, la création de ce bouquin, comment il s'appelle, de quel sujet il traite.
Alors, pourquoi ? C'était une évidence, puisqu'on travaille dans ce milieu-là, c'est ce qu'on connaît le mieux, en tout cas moi, c'est le milieu que je connais le mieux. Donc c'était une évidence, on vit des choses tellement merveilleuses chaque jour que c'était bien de les mettre par écrit.
On peut discuter avec Valérie pour la réalisation de chaque dessin, parce qu'on voulait faire passer certains outils pédagogiques sur les images et pas tout raconter uniquement dans le texte. Donc c'était aussi beaucoup de travail de réflexion, les dessins, ça c'est un travail qu'on a fait à deux. Et puis encore, après avoir fait les dessins, j'ai parfois modifié en suivant les conseils de Valérie, pour bien respecter toutes les valeurs qui doivent y être. Et puis j'ai travaillé pas mal sur l'expression des personnages pour bien montrer ce qu'ils ressentent.
On est dans la classe du bonheur, ici, là, durant cette interview.
Oui.
Devant vous, vous avez votre ouvrage « L'école du bonheur pour enfants extraordinaires ».
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il raconte, ce bouquin ?
Alors, c'est l'histoire de quatre enfants qui sont en situation de handicap. Disons, ce sont des mises en situation, plutôt. Et c'est une classe très hétérogène, avec différents types de handicap. Et puis, ça raconte le quotidien. Nous avons Lucie, qui est trisomique. Et puis, nous avons Sophie, qui est atteinte d'IMC, qui est en fauteuil roulant. Béranger, qui est hyperactif, qui a beaucoup de troubles du comportement. Et puis Gillien, qui a des traits autistiques, hein, qui a quelques troubles autistiques. Oui.
Ce qui ressort dans votre bouquin, dans chaque mise en situation, on voit Lucie, Gillien, Béranger et Sophie. Chacun d'eux, il est confronté à une situation, et puis à un moment donné, il y a une frustration.
Tout à fait. Alors, c'était aussi le but de ne pas faire que du joli et puis du facile. On a voulu aussi décrire et puis montrer qu'effectivement, quelquefois, il y a des échecs et puis quelquefois, c'est pas tout rose.
On voit bien en classe Klein, on a des contacts avec d'autres enfants du collège ou de partout qui nous posent souvent des questions. Et du coup, l'idée, c'est de faire découvrir à tout le monde et aussi aux plus jeunes qu'est-ce que c'est le handicap qui est encore très méconnu globalement, finalement.
Et puis les parents aussi d'enfants en situation de handicap peuvent se rendre compte de certaines choses et mieux comprendre certaines situations de ce qu'on vit, nous, en classe. Mmh. Aussi.
Valérie, vous dites que vous avez utilisé un langage simple parce que vous avez écrit le texte. Louis, vous avez aussi dû faire certains choix dans l'illustration. C'est pas évident de tout expliquer sur un dessin. La classe, la relation entre les enfants, l'émotion sur leur visage.
Ouais, on a beaucoup discuté avec Valérie pour la réalisation de chaque dessin, parce qu'on voulait faire passer certains outils pédagogiques sur les images et pas tout raconter uniquement dans le texte. Donc c'était aussi beaucoup de travail de réflexion, les dessins, ça c'est un travail qu'on a fait à deux. Et puis encore, après avoir fait les dessins, j'ai parfois modifié en suivant les conseils de Valérie pour bien respecter toutes les valeurs qui doivent y être. Et puis j'ai travaillé sur l'expression des personnages pour bien montrer ce qu'ils ressentent. Parce qu'il y a beaucoup d'émotion dans la classe. Les élèves, souvent quand il y a un problème, ils peuvent être beaucoup focalisés dessus, être très tristes, ou voilà, au contraire, faire partager leur bonheur au maximum, être très vivant. C'est des classes très vivantes, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'émotions.
Le dessin que tu as fait a l'air de te toucher particulièrement.
Ouais, mais je sais pas, c'est que l'élève a atteint son objectif et finalement, en fait, c'est toujours... il n'a pas changé, je ne sais pas, c'est toujours le même. Et...
C'est ça, il dit « Youpi, je suis calme », mais déjà, rien que dans la phrase « Youpi, je suis calme », il n'est pas calme. Mm-hmm. C'est extrêmement vivant.
Ça nous parle, c'est un peu notre petit refrain. À chaque
fois,
on travaille des choses, ça vient, ça repart, et puis parfois, c'est juste drôle, quoi.
Ouais. Et puis on sait très bien que dans le monde du handicap, quelque chose qui est acquis n'est pas acquis pour toujours, n'est-ce pas ?
Est-ce que vous avez pensé à une suite ou est-ce que pour vous c'est une belle aventure, puis voilà, ça va comme ça ?
Pour le moment, on considère que c'est une très belle aventure. Si on nous propose quelque chose d'intéressant, effectivement un dessin animé, pourquoi pas ?
Si on nous le demande un jour, c'est qu'on a réussi notre objectif, puisque le but c'est de faire connaître le livre, donc...
C'est ça.
On serait conquis.
Un livre touchant et optimiste, et pour nous, ça c'est très important.
Puis l'aventure de ces deux enseignants avec leur ouvrage, et le quotidien de cette classe.
Rubrique il y a un an.
Nous faisons un petit retour dans le temps. Nous étions partis à la rencontre du célèbre photographe Guillaume Perret. Plusieurs couples des personnages ont participé à cette aventure lors du vernissage de son exposition au Théâtre du Passage à Neuchâtel.
Ça part pas forcément d'une envie que j'avais, mais c'est des gens, des couples qui, eux, m'ont demandé de les prendre en photo. Et j'ai commencé à faire une ou deux photos de couple de ce genre-là, et après ça m'a donné envie, puis j'ai poursuivi.
Ça peut, je sais pas, c'est mille couleurs, c'est la rencontre de deux personnes, d'être en général, ça peut être l'amour, mais rien que, je sais pas, par exemple d'écouter le vent dans les arbres, pour moi il se dégage de l'amour un peu partout en fait. Si on sait le regarder, ouais, je pense qu'on peut le trouver à beaucoup d'endroits.
L'amour, que représente l'amour ? Le respect mutuel, la confiance, le bien-être, la vision du couple sur le long terme, faire sa vie avec quelqu'un, avoir des papillons dans le ventre quand on le voit, les yeux qui pétillent, ne voir que cette personne quand il rentre dans la pièce, uniquement lui alors qu'il y a plein de monde autour. Ça, c'est l'amour.
Quand vous avez écrit tous ces textes, est-ce que vous avez voyagé dans l'amour est-ce que vous avez fait un grand voyage en écrivant un texte ?
Quand j'ai écrit ces textes, j'étais célibataire et j'ai dû me plonger, disons, dans mes souvenirs de ressenti de l'amour. Et j'ai comparé ça plus à un rayon de soleil qui caresse la peau, une sensation de marcher pieds nus sur les rochers. Voilà, pour moi, l'amour, c'était une impression de nature, revivre avec la nature.
Elle représente l'affection entre deux personnes et je crois que le moment il a été bien pris parce que c'est vrai qu'ils sont détachés de tout regard et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont créé une bulle d'intimité autour d'eux sur cette image.
Ce sont des personnes handicapées mais qui témoignent d'un certain amour entre eux et c'est une très belle image à mon avis.
Que représente pour vous l'amour ?
C'est une chose essentielle dans la vie, je crois.
Parlez-nous des trois couples que vous avez rencontrés au sein des personnages.
Pour moi, ça s'est chaque fois très bien passé. J'étais très content en fait de la manière dont se sont déroulées les choses. Et je dirais que ce soit les trois couples des personnages ou les autres couples, ça m'a amené la même joie, c'est-à-dire que c'est des gens que je ne connaissais pas et que je rencontre. Et moi, j'aime beaucoup ça dans la photo, en fait, de rencontrer, souvent de manière assez intime, qu'on soit nu ou pas, ça change pas tellement au degré d'intimité. C'est tout à coup de faire une photo, maintenant je vous parle, j'ai l'impression que je suis vraiment bien connecté à vous. Donc c'est ce que j'aime dans la photo. Et tout à coup, les gens des personnages, c'est des gens que je croise, que je vois dans la rue, dans le bus. Et tout à coup, le fait de se dire, on va faire une photo ensemble, ça me lie de manière plus forte avec eux. Et moi, ça, je trouve, c'est ça qui m'enrichit le plus.
Que signifie l'amour pour vous ?
Alors, avec ce travail, je dirais que ma réponse, ma définition du mot amour, il est dans l'ensemble du travail que je propose. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je ne peux pas donner une phrase ou une définition précise de ce que c'est que l'amour pour moi. L'amour, il a plein de facettes différentes et selon que ce soit le matin, midi ou le soir, il aura aussi une signification qui sera différente pour moi. Et l'amour, comme je le voyais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans ou 40 ans, ça a encore complètement changé. Donc l'amour, je vois plus ça un peu comme une énergie comme une manière de voir les choses, de rencontrer les choses, les gens. Je peux même élargir l'amour à aimer la nature, les arbres, des choses qui ne sont pas forcément humaines. Et donc c'est vraiment un tout. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais avant avec le feu ou l'eau. C'est une manière d'être au monde que d'envisager ça sous un regard d'amour, plus que sous un regard de séparer les choses justement pour leur mettre des étiquettes ou les séparer les unes des autres. Pour moi, l'amour, en fait, c'est le tout de la vie.
Soirée du décalage.
Petite rubrique festive. Souvenir sympa de la soirée de Noël de l'ancien Décala devenu Fortel. Nous avions profité de cette soirée avant qu'il ait ce fichu coronavirus qui gâche tout notre bonheur. De magnifiques souvenirs.
Ce serait bien de monter, il va y avoir la suite des opérations au premier étage. Je vous laisse monter et il y aura plein de surprises. Alors à tout de suite.
Alors ça se passe comme ça. Donc on va commencer par Anne. Et puis je vous propose que vous vous mettez ici pour faire aussi encore une dernière photo avec tous les jubilés. Santé, joyeuses fêtes et puis profitez de cette soirée.
Silence pour le groupe qui va commencer. Merci à vous et puis bon concert à tout le monde.
Voilà, c'est avec cette magnifique soirée du Décala que nous marquons la fin de ce journal.
Au nom de toute l'équipe de l'atelier multimédia, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et une belle année 2021.
Mes collègues Daniel Colleani, Luc Bomba et moi-même, on vous embrasse et au plaisir de vous retrouver en 2021 pour notre prochain journal. À très vite. Ciao, ciao.